sur saisir. C'est bon ?
Oui.
Bien. Bien, rebonsoir. Vous savez que nous terminons aujourd'hui à la fois cet atelier, le 37e, qui a pour but d'évoquer la question de la représentation animale, et nous terminons par là aussi la série des trois ateliers de cette saison 2024-2025. Mais on se retrouvera peut-être dans quelques mois pour la saison prochaine. Et pour ce cinquième acte de ce 37e atelier, consacré donc à la représentation animale, j'ai imaginé la chose suivante. Vous vous rappelez que les deux premières séances avaient pour but d'évoquer sur le plan symbolique la question de l'animal. On avait pris deux animaux dont le symbolisme est très riche, le chien et le singe. Mais pour essayer de baliser toutes les questions, à peu près, touchant à la représentation des animaux, vous rappelez que nous avions fait une troisième séance sur un certain nombre de grands cycles évoquant justement des animaux. Nous avions parlé de Versailles à Schwerin, par exemple, pour évoquer cela. Et puis la fois dernière, on avait passé en revue toute une série d'œuvres célèbres représentant des animaux, ce qui permettait de compléter notre regard sur la symbolique, notamment, et donc d'essayer de poursuivre cette exploration du monde animal dans le domaine de l'art. Aujourd'hui, pour clore cette série, j'ai pensé qu'il serait intéressant de nous intéresser aux artistes animaliers, parce qu'on les a pas mal croisés au fur et à mesure de ces séances, sans forcément travailler sur ces personnalités. Et j'ai pensé aujourd'hui qu'il était important peut-être d'essayer de voir les artistes qui, en Occident, s'étaient vraiment, sinon spécialisés, du moins largement consacrés à cela. Voilà, je crois, une manière de, non pas de clore, mais enfin de poursuivre et de prolonger ce que l'on a vu les fois précédentes. Alors, je vous ai préparé un petit diaporama d'à peu près 25 œuvres, que, bien entendu, j'ai mis dans le désordre, et que nous allons regarder les unes après les autres pour essayer de comprendre décidément de quoi il s'agit, en essayant peut-être de retrouver les auteurs, chose d'autant plus facile que ces auteurs, nous avons souvent rencontrés dans les quatre séances précédentes. Vous voyez, pour cette ultime séance de la saison, je vous ai en gros mâché le travail. Toutes les personnalités que nous avons vues, on les a, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles, on les a déjà rencontrées. Vous voyez, ce sera finalement assez facile. Bien. Alors, je vous propose que nous commencions par une première œuvre, qui est celle-ci. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a ici la signature du personnage, mais je vais la cacher. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit très bien. J'aimerais que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez, comment vous voyez cette chose, ça date de quand, c'est fait où, quelle est l'idée dans cette représentation, et peut-être quel est l'artiste.
Et la taille de l'œuvre, quelle est-elle ?
À votre avis ?
Petit.
Oui, c'est petit. C'est un artiste qui est assez spécialisé dans des œuvres de petite dimension, assez précieuses, si vous voulez. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça représente, et surtout, quelle est l'idée, l'esprit d'une œuvre telle que celle-là ? Ah, il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un. Entrez, bonjour. On vient juste de commencer. Je vous en prie. Vous signerez après, c'est pas un problème. Ah. Oui, alors, quelle est l'idée ? Je suis comme ça parce qu'il y a la signature qui est là. J'ai envie de l'enlever, mais bon. Ça, c'est le coup classique. Ah, je vais avoir mal au bras, alors dépêchez-vous de me dire ce que.
C'est un affrontement entre les animaux et les serpents.
L'affrontement des animaux et des serpents, oui. Alors, l'idée de cette œuvre qui, effectivement, montre un affrontement entre des serpents et des animaux, l'idée, c'est quoi ?
Les serpents et ceux qui les mangent.
Voilà, effectivement.
Et le serpent, c'est souvent le mâle, et puis les autres qui luttent contre le mâle.
Oui. Et dans la conception de cette œuvre, qu'est-ce que vous auriez à souligner, peut-être ?
C'est très agressif.
Agressif, oui.
C'est très éparpillé. Hein.
Oui, et justement, ça vous fait penser à une chose. Pardon ? Alors, et là, je ne peux pas m'approcher si je veux laisser. Oh, vous ne voyez pas, là. Hein.
Non.
Voilà. Donc, vous voyez. Voilà. Alors, voilà, exactement. C'est-à-dire que je crois que ce qui frappe dans une œuvre telle que celle-ci, c'est le côté étude d'histoire naturelle. Hein. On a l'impression, plus ou moins, d'une sorte de planche hein, issue de quelques manuels d'histoire naturelle. Effectivement, il y a une dimension vraiment pour scruter, je dirais, la nature des animaux d'une certaine façon. Hein. Il y a une espèce d'analyse. Alors, effectivement, l'idée serait de représenter le serpent et un certain nombre d'animaux qui sont ses prédateurs, mais de le faire à la façon dont un entomologiste épinglerait les insectes sur un fond.
Les hérissons sont bizarres.
Alors, oui, d'ailleurs, tout est un peu bizarre. Enfin, il y a pas mal de qui sont bizarres. Hein. Il y a au premier plan un animal qui est vraiment étrange. Il y a une tête et pas de corps. Enfin, pas de queue, c'est évidemment pas un animal vraiment. Donc, c'est une histoire naturelle qui a ses limites, ces choses-là. Hein.
En partie imaginaire.
En partie imaginaire, oui.
Oui, les hérissons, ils ont les
Alors certains ou certaines d'entre vous qui n'ont Dieu que pour la signature ont déjà vu de qui il s'agissait, mais ça ne nous dit pas quand ça a été fait, ni dans quel contexte. Mais tout regarder la signature, tiens, regardez plutôt l'œuvre, ça finalement s'en dira plus.
Moi je dirais du 18e.
18e ?
Non,
optimalement
avant.
C'est un dessin aquarellé.
Dessin aquarellé ?
Parce que c'est une aquarelle en fait.
Mm-hmm. Et fait où ?
Pays nordique.
Peut-être bien, oui.
En Allemagne.
Allemagne ?
Bah, oui.
Donc une œuvre nordique, peut-être allemande. Vous disiez 18e ou un peu avant ?
Oui, non,
avant.
Plutôt 15-16e.
15-16e ?
Carrément.
Donc assez tôt. Hein.
Oui,
c'est
tôt.
Mm-hmm. Ok, bah, écoutez. Acceptons-en le voulu. J'espère que je n'ai pas oublié partout d'enlever les signatures. Il y a un autre tableau, j'ai certainement oublié. Bon, tant pis. Voilà. Alors. Ah oui, ça. Sur le réacteur, je vois mal. Ce genre de choses. Alors.
C'est une huile sur toi.
C'est ce qu'il faut avoir dans toute bonne maison.
Absolument. Donc, on a là une grande peinture à l'huile sur toile, effectivement.
Avec beaucoup d'animaux.
Pas mal d'animaux.
Et des instruments de musique.
Oui, et des instruments de musique, oui.
Et des
fleurs,
oui. L'idée est en quoi, finalement, dans un tableau qui est celui-ci. On a vu que la première œuvre qu'on a vue était une œuvre qui avait pour but, même si certains animaux étaient un peu fantastique, hein, de, c'est-à-dire, créer une sorte de catalogue de l'histoire naturelle des serpents et de leurs prédateurs. Donc il y avait une espèce de volonté de connaissance des animaux sur le plan scientifique, pourrait-on dire. Là, est-ce que c'est la même idée ? Au-delà du fait que c'est un manuel de savoir-vivre, hein, puisqu'on ne montre pas ce qu'il faut avoir dans une bonne maison.
Ils sont décoratifs.
Il y a une dimension décorative, oui. Et quoi d'autre, oui. Alors, il y a effectivement une opulence. Hein, une opulence, parce que il y a du monde et il y a beaucoup d'objets. Hein, oui.
Mais est-ce que ça ne serait pas parce que le peintre veut montrer ce qu'il sait faire ? Il y a un drapé, il y a...
Alors, c'est un peu vrai. Il y a là un peu le catalogue de ce que peintre sait faire. Hein. Il sait faire des fleurs, il sait faire des animaux, il sait faire de l'architecture, il sait représenter des objets. Il y a effectivement un catalogue. C'est d'ailleurs peut-être parce qu'il sait faire ça qu'on lui a commandé d'ailleurs. Hein. Vous savez, c'est le problème de la poule et de l'œuf. Hein. Est-ce qu'on lui a commandé parce qu'il savait faire ça ou parce qu'il avait ça pour montrer ce qu'on peut lui commander hein. Voilà. Effectivement.
Et donc l'idée, effectivement, que vous souligniez, c'est la richesse, hein, le luxe, finalement, l'opulence, hein, qui règne dans cette œuvre, effectivement également très décoratif, parce que je ne suis pas sûr qu'il faille chercher une explication particulière. Je ne crois pas qu'on nous dise quelque chose, sinon, effectivement, cette idée d'opulence. Quel type d'opulence, d'ailleurs ? Quel type de richesse ?
Pardon ? D'objets inanimés ?
Oui. C'est-à-dire ?
Pardon ? Un peu intellectuel.
C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, effectivement, une œuvre telle que celle-ci, l'idée de montrer une opulence, alors, de la manière picturale, hein, on sent que ce peintre sait tout faire, quoi. Voilà, hein. Une opulence de richesse, hein. On comprend bien qu'on n'est pas dans un bidonville. Hein. Mais aussi, vous le disiez, une opulence intellectuelle. C'est-à-dire qu'on voit finalement qu'il y a plein d'éléments qui soulignent quelque part, hein, la qualité du goût, pourrait-on dire, la qualité de l'esprit. Il y a finalement de la musique, les animaux peuvent évoquer plein d'autres choses encore. Tout est là, quelque part. L'opulence aussi, vous parliez de richesse de l'air, mais l'opulence de ce que la terre peut proposer. Hein. Vous avez aussi bien des fleurs que des fruits, etc. On sent une espèce de. Et puis donc tous ces animaux qui montrent une espèce de. C'est la richesse tous azimuts. Hein.
Est-ce que ce n'est pas un peu les cinq sens ?
Ça peut être ça aussi. Vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire que souvent ces œuvres sont à plusieurs lectures, on y entre de plusieurs manières. Et effectivement, au-delà d'une espèce d'opulence, un peu, j'allais presque dire grasse, hein, joyeuse, hein, il y a effectivement l'idée, sans doute aussi, de montrer cinq sens. On voit évidemment l'ouïe, on voit également le goût, forcément le regard, enfin les.
La vue, le toucher,
voilà. L'odorat, il y est, et le toucher, il y est forcément, d'une certaine manière. Alors, ça n'est pas, peut-être pas le titre de l'œuvre, mais on ne peut pas ne pas y penser, et vous avez raison de souligner, parce que souvent les artistes cumulent dans une seule œuvre plusieurs choses. Et alors, ça, c'est pareil, c'est vous situez ça quand, vous situez ça dans quel pays, vous voyez ça sous le pinceau de quel peintre. 17-18, oui.
France.
Oui. Ouais. Et vous avez une idée d'un candidat ? Bon, les 25 personnalités qu'on va regarder sont vraiment la crème, hein, de l'art animalier occidental. Il en manque évidemment, mais.
Voilà.
Oudry. Pardon,
Oudry.
Oudry, bien, vous disiez ?
Oudry.
Oui, Oudry.
Parce que le chien, je trouvais.
Est assez oudresque.
Particulièrement,
oui,
le chien.
Oui, oui. Eh bien, écoutez, partons sur Oudry. Nous verrons bien.
De la Croix.
C'est vrai que de la Croix a peint beaucoup, beaucoup d'animaux. Hein. On ne peut pas dire peut-être que c'est un peintre animalier. Hein.
Non,
il a peint beaucoup d'animaux.
Il a fait des études.
Oui, beaucoup. Bien.
Et la technique, on dirait, je ne sais pas, qu'il y a du fusain.
Oui. Oui, c'est une technique qui semble, en tout cas, ne pas être uniquement picturale. Hein. Il y a une dimension assez graphique. Donc si tout le monde s'entend sur Delacroix ?
Oui,
très
bien.
Autrement dit, si vous aviez une date plus ou moins à donner.
La première moitié du 19e.
Et justement, qu'est-ce qui fait que cette œuvre, quand on va voir comme ça, fait penser tout de suite à Delacroix et à la première moitié du 19e ? Que vous n'avez pas eu d'hésitation, hein. Vous avez vu avant une œuvre évidemment très différente, et c'est là, bing, à peine vu, c'est de la porte de la 19e. Pourquoi ?
Parce que c'est sombre, il y a une tache de lumière au milieu.
Oui, et ça, c'est l'apanage de.
Du romantisme.
du romantisme.
Du romantisme.
Ouais.
Oui, ok.
Oui, donc, il est dans une position assez inhabituelle.
Oui. Oui, évidemment.
Il a pensé à l'exagération du romantisme.
C'est ça. Il y a évidemment les deux choses que vous disiez, c'est-à-dire une espèce de contraste lumineux, hein, le sombre et le clair, c'est une espèce de spectacularisation, hein, effectivement, qui est un peu des apanages du romantisme. Et puis la singularité, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas un animal, je dirais, représenté dans une pose habituelle, pourrait-on dire. Hein. Il est là en train de se gratter le dos par terre. Voilà quelque chose, effectivement, d'un peu. Donc, tout le monde est OK avec l'identification
du... Oui.
Oui. Oui. Bien. Ah ben, puisqu'il n'y a pas de contestation,
on va se planter.
Allons, allons.
La profusion.
Ah, vous n'avez pas vu ce tableau-là, mais un tableau proche de celui-là. Oui.
Ouais.
Alors, donc, vous savez qui c'est.
Bruegel.
Pardon.
Bruegel.
Ah, c'est vrai que qu'est-ce que vous avez pensé à Bruegel?
L'abondant,
enfin, oui, le deuxième. Donc, autrement dit, son petit nom, c'est quoi? Voilà. Alors, on l'appelle Bruegel de Velours, et son petit nom, Yann. C'est ça, hein. Il y a Jean, hein, Jean Bruegel, donc un des fils de... Vous savez, il y a Pierre Bruegel l'Ancien, qui a deux fils, Pierre Bruegel le Jeune et Jean Bruegel l'Ancien, qui numérant un fils s'appelle Jean Bruegel le Jeune. Et donc, on est chez Jean Bruegel, dit de velours, c'est-à-dire un des fils de Pierre Bruegel l'Ancien.
C'est le paradis terrestre.
Alors, évidemment, on a bien envie de voir là le paradis terrestre. Hein.
Ça fait penser à ce qu'on avait vu, oui, sur les peintures de paradis.
Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des détails qui, au-delà de la provision animalière, qui iraient bien dans ce sens-là du paradis terrestre?
La variété des
animaux.
Variété des animaux, oui.
Il y a deux personnages au fond.
Eh oui, il y a deux personnages au fond.
Ah ben c'est Adam et
Ève. Voilà, il y a effectivement là Adam et Ève. Donc, il n'y a pas hésité, effectivement, c'est le paradis terrestre. Et vous avez raison, hein, on avait vu, je crois, hein, au moins une représentation de paradis terrestre par Jan Bruegel le Jeune, pardon, l'Ancien, donc Guy de Velours. Et donc, effectivement, on peut bien penser à cet artiste-là. Autrement dit, ça nous amènera à quelle époque et dans quel territoire?
Flandre.
Un 16e. Ok. Bien. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter par rapport à ça?
Non.
Non.
Il n'y a pas de serpent.
Si on regarde bien, il doit y en avoir au moins un pas très loin d'Ève. On peut penser qu'il y en a un qui se cache par là, derrière l'éléphant. Hein. Hélas, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de serpent trop visible. En fait, il doit bien y en avoir au moins, pour les raisons que l'on sait trop bien.
Pas beaucoup de fleurs.
Non, c'est vrai. C'est... Oui, c'est...
Il n'y a pas beaucoup d'animaux carnassiers.
Non, effectivement, on en voit peu. Enfin, il y a tellement de choses que c'est dur de voir.
Il me semble qu'il y a un lion là-bas au milieu.
Là, oui, il y a un lion, là peut-être une tempête. Oui, mais l'animal, l'éléphant n'est pas trop carnassier. Mais il est. Hein. Tiens, à propos d'éléphant.
Bon.
Non, ça. Hein.
C'est un éléphant tôt.
Ben, je ne suis pas sûr que ce soit un éléphant tôt.
Ah bon? Et ses défenses, alors?
Ah.
Ça disparu.
Peut-être.
Ah non, c'est pas bon.
C'est quoi? C'est une sculpture.
C'est une sculpture, d'accord.
C'est une sculpture en pierre.
Pierre.
Elle a été
pincée.
Elle est bizarre, ça tourne. Elle est bizarre.
Oui, la trompe est disproportionnée par rapport au reste. C'est pour ça que ça me faisait penser à
les oreilles.
Les fantômes.
Les oreilles sont.
Il n'y a pas d'oreilles.
Les oreilles. Elles sont soit cassées, soit c'est un éléphant à petites oreilles.
Oh, c'est un animal préhistorique, ça.
Ah, carrément. Ce qu'on appelle un mastodonte.
Il y a des super
Alors voilà, on peut peut-être imaginer qu'il y avait des défenses, mais qui ont été perdues. Pardon ? Ben oui, on croit deviner l'emplacement, donc il y a peut-être un élément rapporté qui. Pourquoi finalement ce serait perdu ?
Parce que justement, c'était rapporté.
Oui, alors, vous pensez qu'il y a peut-être des éléments rapportés en ivoire. Ça, c'est une idée, effectivement.
Oui, mais ça a été un petit peu cassé parce qu'on voit le socle.
Oui, on voit effectivement que le socle est lui-même un peu abîmé.
Ça a été trouvé dans des fouilles.
Ah, trouvé dans des fouilles archéologiques. Ce sera un objet découvert dans des fouilles archéologiques et donc un peu fragmentaire. D'ailleurs, la queue, vous voyez, est un peu manquante aussi. Non, vous avez noté les oreilles, un petit problème.
Et quelle taille a-t-il ?
Pardon ?
Quelle taille a-t-il ?
Ça fait à peu près cette taille-là.
Ah, grand.
Oui, c'est assez grand. Hein. Avec la trompe. Hein.
Ah, ouais.
Qui trompe, effectivement, et non, le. Non, c'est assez grand. Hein.
C'est grand. Bizarre.
Il fait le dos rond, c'est un peu bizarre.
Pardon ?
Il fait le dos rond.
Oui. En fait, vous notez bien qu'il y a finalement dans cette manière de représenter cet animal, d'ailleurs à la fois un certain réalisme, mais en même temps, pas tant que ça. Quoi. Donc ce serait l'œuvre de quelqu'un qui appartient à une époque où on ne voit pas trop en Occident d'éléphants. Donc. Il a représenté un éléphant, mais enfin, le connaissant pas très bien, cet animal, ne l'ayant jamais vu, il fait ce qu'il peut.
Par ouïe dire.
Parce qu'il est peut-être en train de voir, là il n'a pas une patte pliée, là, il est en action. Quoi.
Alors, il est visiblement en action, oui, on a l'impression qu'il a une patte repliée avant gauche pour aller mieux boire, ou pour aller mieux saisir quelque chose. On sent que, il se pousse pour aller.
Il est une gastro.
Donc, en fait, ce qui vous frappe dans cette œuvre, donc je résume, hein, vous y voyez une œuvre en pierre, un peu cassée, peut-être parce que découverte dans des conditions archéologiques un peu, une œuvre ancienne donc, une œuvre sur laquelle il y avait peut-être des éléments rapportés, on pense en défense, qui sait, peut-être elle-même en ivoire. Et qui aurait disparu. Il y a des éléments un peu brisés, le socle, les oreilles, peut-être la queue. Un éléphant qui a un peu une drôle d'allure. Certes, il est en train de se placer de telle manière qu'il va récupérer quelque chose avec sa trompe un peu loin, le fait qu'il est un peu agenouillé. Mais enfin, il a un peu une drôle de touche, si j'ose l'expression. On a l'impression d'une. Avec cette trompe un peu hypertrophiée, avec ce dos un peu trop rond, on a l'impression d'un animal qui est représenté d'une manière un peu particulière, comme si celui qui l'a fait n'avait jamais tellement vu. Je résume bien ce que vous avez dit ?
Oui.
Bien. Alors, vous auriez donc peut-être maintenant à vous risquer pour dire où, quand et qui. Ah.
Quand c'est ancien, puisque...
Quand c'est ancien,
Oui, parce que si c'est pas la représentation de l'éléphant, c'est que, on est au 14-15e siècle.
Donc fin du Moyen-Âge,
Il est pas si mal que ça. On peut pas dire qu'il est représenté.
Et on est où ?
Alors là.
On reste en Europe.
Ah, tout est occidental. Alors, c'est pas forcément l'Europe, mais c'est l'Occident. Donc, quand on a une idée, ou on n'a pas trop d'idées, alors qui ?
Oui,
là encore moins.
Bon. Pas encore moins.
Bien. Bon. Vous voyez pas d'autres choses à dire sur cette œuvre-là ? Non ?
Non.
Non.
Alors.
pleine peinture, bravo. Des bébés phoques, effectivement. Sur une planche avec des crustacés.
Sur un village, derrière un village.
Un village en fond.
On est au bord de la mer, il y a les mouettes.
Oui, on est au bord de la mer.
Oui, il y a des mouettes, ouais.
Il y a une étrangeté de voir des phoques là, avec un petit village, son clocher à l'arrière.
C'est peut-être un reportage.
Ah, c'est peut-être
un hasard. Il s'est échoué quelques chiens de mer. Ils ont un
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que il y a peut-être une sorte de collage entre guillemets. On a mis des phoques d'un côté et on a plaqué ça sur un paysage de manière un peu incongrue, c'est ça que vous voulez dire?
C'était extraordinaire.
On peut
être sur une plage. Ah
oui, on voit l'eau là. C'était deux phoques qui sont perdus, entre guillemets, et qui seraient arrivés là un peu par hasard.
Ils ont bien mangé, ils sont pas perdus.
Les plages de la mer d'eau.
Pardon ?
On a fait la bête sur la bête sombre.
On a fait la bête sur la bête sombre. Il y en a un qui dort, l'autre qui irait. Non ?
Non, ils ne sont pas forcément perdus.
Ils ne sont pas perdus. Ils sont dans leur milieu.
Oui, oui.
Ok.
Ils sont pas très ressemblants.
Non. Ah ben ils sont un petit peu.
Toute la tête.
Comment dire?
On dit un chien de mer, alors on lui a fait une telle.
T'as vu tout ce qu'ils ont mangé?
Ok.
On peut voir tout à fait à ça.
Alors qu'est-ce qui a fait ça et quand? Ah.
C'est dans le nord, ça.
Dans le nord.
Dans le nord, toujours.
Parce que le clocher me ferait penser à le clocher du nord.
17e.
17e,
oui.
Dans le nord, bon. Par un artiste bien connu. Certainement. D'ailleurs, ce tableau, il est conservé où?
Ah ben, tous les coups, il est dans notre région.
Bonne chance. Je fais un petit contrôle des connaissances.
Alors, Dijon,
Besançon. On va se citer tout, on va y
arriver. Besançon, Amiens.
Amiens, c'est pas la région. Ça l'était, jadis. Ça l'est plus.
Mais en attendant, il y a un joli jeu de lumière. Et
ouais, oui, c'est un beau tableau.
Sur le pelage, on a vraiment l'impression
d'une
restitution.
Ah oui, bon, on va enchaîner sur une autre. Ça dévie. On parlait de coquillages et crustacés, c'est pareil.
Une
étude de renard. Bravo, vous êtes plein de perspicacité.
Je rappelle,
ça pourrait être au pastel.
Ça pourrait. Ok. Alors, étude pour quoi, pour quand, pour qui, pour où,
pour un tableau.
Étude pour un tableau. Pour la chasse. Pour un tableau de chasse.
Hein? Ou de fable.
Oui,
ou de
fable.
Ah oui, ou de fable.
La
fontaine. Ok. Donc vous voyez ça au 18e, un tableau qui montre des études de renard, fait pour un tableau définitif qui sera un tableau de chasse ou évoquant.
Pas forcément, ça peut être une étude pour une étude.
Une étude pour une étude, ok. Et alors là aussi, je vais toujours vous poser la même question, hein, mais quand vous me l'avez dit, vous m'avez dit 18e, mais par qui? Enfin par qui? L'artiste. Pardon ? 19e. Ouais. Et est-ce que vous auriez l'idée de l'origine de l'artiste qui avait ça ? Et peut-être son nom.
C'est Nicolas Signac.
Pardon ?
Il y a la signature à droite.
Oui, mais ça, c'est pas ça qui nous arrangera.
Ça pourrait pas être
aux abonneurs,
ça ?
Ça Ça va à tout le monde, ça ?
Oui.
19e ? Bon, 19e, hein, on passe au 19e. Alors, hein. Rosa Bonheur, 19e ? Une étude de renard, comme elle a fait d'une étude. Ça vous va, ça ?
Oui.
Eh bien, écoutez.
Ils sont pas contrariants.
Oh non, pour l'instant, non. Tout à l'heure, je le serais peut-être davantage. Je vais être pas mal contrariant, je crois, tout à l'heure. Des chevaux, bravo.
En bronze.
Des chevaux en bronze. Pardon ? Dosa.
Degas.
Ah, Degas. Degas fait des chevaux. Vous avez... Oui, ouais, Degas fait des chevaux. Effectivement, on peut penser à ça. Pardon ?
Ingres
n'a pas fait trop de sculptures. Hein. Et pas trop d'animaux non plus, d'ailleurs.
Les chevaux de...
Mais... Non, effectivement, Degas est...
L'accident à une page.
Ça veut dire, oui. Ça veut dire que vous y voyez une œuvre française du 19e.
C'est ça que oui, ça veut dire. Oui.
Si vous me dites Degas, c'est France 19e. Ok ? Je sais.
Ne serait-ce que le socle, il fait penser très Napoléon III.
Très Napoléon III.
Le socle, il est en marbre.
Socle en marbre ?
C'est bien possible, oui.
Socle en marbre et sculpture en bronze. Bien. France 19e. Ok. Et à part Degas, il y a d'autres candidats ?
Non, je sais pas.
Non, Barry. Ah, Barry, Barry. Barry, effectivement, grand sculpteur animalier du 19e. Hein. Ce serait surprenant qu'il n'y ait aucune œuvre de Barry dans ce programme. Alors, ça va continuer, mais enfin... Ce serait surprenant. Hein. Bien. Eh bien, écoutez. Nous y revoilà. Oui. C'est un homme, on aura vu hein, des choses comme ça. Donc là, vraiment, pour vous, ça n'a aucun secret.
Marion Dupin.
C'est Tonia qui sait le nom du pain.
Attendez, ne confondez pas avec d'autres que nous avons vus au système. Hein.
Ah ouais, mais ça ressemble.
Là, je vous mets sur la voie. Hein.
Ça ressemble. On se tire du tableau de chasse.
Alors oui, on a là une sorte de tableau de chasse, c'est-à-dire un étal de gibier. Okay. Bon, vous savez l'époque, vous savez le lieu.
La Flandre.
Quelle époque, quel siècle en tout cas
Alors qu'est-ce que c'est
sur la 17e. Bien, on verra, c'est ça, mais enfin Flandre 17e. L'idée d'un tableau comme ça, c'est quoi une nouvelle fois? Ben voilà, toujours l'opulence, décidément, à nouveau. Hein. C'est un peu la même chose que tout à l'heure. Alors le sujet n'est pas vraiment le même. Tout à l'heure, c'était une opulence, j'allais dire, vivante et joyeuse. Là, c'est une opulence assez moribonde.
Techniquement parlant, c'est bien une
même. Techniquement, alors, tout à l'heure, vous y faisiez allusion pour le tableau qu'on a vu. On a là, effectivement, de ce type d'œuvre, dont lui, il montrait l'espèce de brio pictural de l'artiste. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est extravagant. Quoi. On est là pour quelqu'un qui a le rendu des animaux morts ou vivants. Là, ils sont morts, n'est pas un problème. C'est parfait, quoi. Il n'y a rien à dire. Quoi. Il y a une espèce de virtuosité du rendu. Et finalement, l'opulence de ce qui est montré va avec l'opulence du fer. Donc c'est le brio est là.
Donc, vous connaissez l'artiste qu'on a vu, revu et re-revu.
Oui, oui.
Alors,
un des maîtres de l'art animalier occidental. Oui. Non. Ça va vous revenir. Surtout quand je vous montrerai le cartel tout à l'heure. Pardon ?
Beckenauer.
Peut-être vous lire Beckelaer.
Ah bah peut-être.
Ce serait une possibilité.
Bon, c'est pas lui. Alors, on va
allez, on va enchaîner. Alors, il s'appelle comment ? Donc, ce serait un anglais, c'est ça ? Bon, les œuvres anglaises, on va les connaître tout de suite. Donc, ce serait anglais, et quand ? 19e. Anglais, 19e, ok. Si vous aviez un titre, vous diriez quoi ?
Monsieur et madame.
Monsieur et madame, ok. Très bien.
On sort chez
vous. C'est marrant quand même. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que les animaux là sont mis en scène, effectivement. Donc l'idée de faire jouer des rôles, effectivement, on avait vu du même artiste, hein, plusieurs d'ailleurs, hein, plusieurs tableaux mettant des animaux, surtout des chiens, en scène. Vous vous rappelez de son nom ?
Hogarth.
Alors Hogarth, c'est un grand metteur en scène. Hein. Peut-être pas d'animaux.
Et là, c'est madame qui fait la pipe. Oui,
c'est oui. Comme vous savez, dans les romans de Dickens, c'est autre, où il y a toujours des viragos qui fument la pipe. Fumer la pipe est une affaire aussi bien masculine que féminine. Hein,
ah
oui.
C'est pas Stubbs.
Pardon.
Stubbs.
Non. Enfin, non, je ne sais pas. Non, c'est pas non. Enfin, Stubbs est effectivement un peintre anglais, mais là, ce n'est pas Stubbs.
Landseer,
absolument. Landseer est un Landseer. L-A-N-D-S-2-E-R. Je ne crois pas faire de faute. Je vous avais montré, effectivement, vous citiez tout à l'heure Diogène.
Oui.
C'était joué avec des animaux, vous savez.
Oui.
Diogène dans son tonneau, etc. Sauf que c'était, encore une fois, ça n'était que des animaux. Ne pas confondre avec celui de Jérôme, que je vous ai montré aussi. Hein. Là, Diogène était un humain. Donc Landseer est vraiment le grand peintre britannique des chiens. Hein. Pas que, mais surtout des chiens. Il représentait des quantités. Et toujours en les mettant en scène de manière un peu caucase, de manière anglaise, quoi. Enfin britannique. Quoi. Ça, c'est une petite merveille de Landseer qui est exquise. Quoi. Bon, alors là, le suivant, pas de problème. Et ben voilà, là, ça va, c'est notre animalier bourguignon. Il n'y a pas de problème. Pompon, effectivement. Là, il n'y a pas trop de secret. D'autant qu'il est né à
Soulieu,
hein. Donc tout va bien. Là, ouf, hein. C'est bon. Alors on passe sur Pompon pour aller vers lui.
Des oiseaux.
C'est vrai qu'il y a là l'idée de... On disait déjà tout à l'heure, peut-être de montrer l'air en même temps que des oiseaux. Hein.
Ah oui.
Bien. Alors, comme toujours, je me répète un peu. Hein, c'est fait quand, c'est fait par qui, c'est fait où ? 18e. Et où ?
Ça peut être chez nous, ça.
Ça peut être chez nous, France.
Ouais.
France 18e.
Mm-hmm.
Oh, ça s'importe, hein.
Donc France 18e, ok. Alors là aussi, décidément, je me répète beaucoup, mais l'idée, le but, l'objectif d'une œuvre telle que celle-là, c'est quoi? Vous en avez dit, c'est peut-être de représenter l'air.
Oui.
Bon, c'est tout? C'est bien regardé?
Il y a quelque chose de bizarre.
C'est bleu, blanc, rouge.
Un art dénudé,
c'est bleu, blanc, rouge. Oui. C'est un tableau révolutionnaire.
Oui, c'est curieux. Moi, je suis surprise par la mauvaise représentation des animaux.
Oui.
Parce que le pan qui est en face au milieu, ça ne représente pas un pan.
Ah bon?
Qui a un tronc bleu et des ailes blanches et marrons.
C'est pas
ça.
Mais
oui, mais
il y a
la tête,
si. Oui, vous pointez là une représentation animalière plus ou moins convenable. Exactement. Est-ce qu'elle disait qu'il y a quelque chose à gauche de bizarre?
Des
trucs qui pendent de l'arbre. Oui, c'est quoi? Ah ben, au sol, là, vous voulez dire?
Là,
là, il y a un oiseau. Hein.
Sur là.
Sur là.
Voilà.
Ben, c'est quoi ça? Pardon?
La neige.
De la neige. Ben, qu'en pense-t-on? Ce serait bien qu'il y en ait là et pas ailleurs.
Est-ce que les oiseaux sont les symboles de quelque chose?
Sans doute.
Une fable?
Peut-être. Alors, l'idée de l'air en est une, mais il y a une autre idée qui est évoquée.
On a un paysage qui est plutôt dénudé et dévasté, et les oiseaux qui seraient réfugiés au bout des arbres.
Oui, quelque part, ils incarnent effectivement. Vous avez raison, il y a un contrepoint entre ce paysage assez austère, on va dire, et les oiseaux qui sont peut-être plus ou moins bien représentés, effectivement, mais qui amènent quand même une touche favorable, rutilante, oui, à ça. Enfin, je veux dire, les oiseaux font vraiment l'œuvre, le paysage aurait tendance à l'éteindre. Alors ils avouent peut-être l'air, oui, peut-être autre chose aussi, qui irait dans ce sens, d'une rutilance, d'une gaieté.
Le chant des oiseaux, leur voix.
Ah, c'est vrai, les oiseaux quand même se marquent par ça, on ne les entend pas trop.
Une espèce
de cacophonie ou d'inverse, de concert.
Ils ont le bec ouvert.
Ils ont le bec ouvert, donc a priori.
Il y a pas de la musique, là, dans l'arbre, des feuilles de musique.
Ah,
c'est une partition
de musique.
C'est une partition de musique.
Donc,
effectivement, c'est un concert d'oiseaux. Donc, les oiseaux sont présentés là parce que peut-être c'est l'air, évidemment, mais aussi la musique. Évidemment, vous avez là des oiseaux qui chantent. Alors, vous avez là la diva cantatrice au milieu. Bref. On chante.
Le pan, le coq.
Pardon ?
Ensemble, le pan, le coq.
Voilà, c'est ça. Ils chantent. Alors, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais enfin, ils chantent. Peut-être un peu du Stoker Musas, je ne sais pas. Mais en fait,
il y avait des symphonies à cette époque-là de Daïn.
Oui, des chants d'oiseaux.
Qui évoquent les oiseaux, oui. Alors, qui sont. Il y a quelquefois des pièces, je dirais. Qui évoque ça de manière singulière, ou bien des moments dans des pièces où il y a des chants d'oiseaux. Notre cher Rameau, par exemple, c'est le cas, parce que j'ai repris différents opéras. Alors, qu'est-ce qui nous a fait ça? Vous disiez France 18e, c'est ça? Un petit nom, peut-être? Non? Pas de petit nom. Bon. Eh bien, tant pis. Pardon? Ouais, c'est le très cadre noir du sommet. Oui.
Ah, mais ça, c'est peut-être l'anglais.
C'est
un anglais qui est spécialisé dans les chevaux. Là, comment ça
s'appelle? Ouais.
Stubbs.
Ça fait penser à Stubbs.
Ouais.
Ok. Donc, ce serait cet anglais grand amateur des chevaux. Ok. C'est quelle époque?
19e.
Ça va à tout le monde, ça?
Oui.
Ouais. Bien. Eh bien, écoutez, 19e, Angleterre, stop, chevaux. Très bien. Très bien, très bien.
Ah, je sais. Je sais qui c'est.
Alors.
Le mouille pas de pétard. Ah, je ne dis pas.
Dites pas. Il y a une musicienne à peu près invisible, je n'ai pas vu d'ailleurs, et que les gens du premier vont voir, j'en suis sûr. Alors, bon, là on sait ce que ça représente.
Des chevaux,
bravo. Mais encore. Pardon ?
Allemagne ou Autriche ?
Ok, quand ? 20e. Mais quand en 20e ?
Début
20e.
Okay. Avant la guerre de 14.
Avant la guerre de 14, bien. Un courant peut-être
Le cavalier bleu,
d'ailleurs. Voilà. Et on appelle comment ce courant-là?
L'expressionnisme.
Très bien. Là, vous avez tout juste. Hein. Enfin, à peu près. Et alors, le peintre?
Franz Marc.
C'est marqué là, d'ailleurs, Franz Marc. Voilà, ça se voit à peu près. Franz Marc, donc effectivement, un peintre, vous avez raison, allemand, du tout début du XXe siècle, il s'est fait tuer durant la guerre de 14. Et qui représente ses cheveux. Effectivement, le Blaureiter, le cavalier bleu, vous savez, c'est un nom d'un courant qui s'est beaucoup illustré en Allemagne au début du XXe siècle, auquel Kandinsky, voilà, hein, qui lui-même a représenté les cavaliers bleus, mais il n'est pas le seul. Et donc on a là un très bel exemple. Et Marc a représenté l'enfant de chevaux, c'était un personnage assez étrange, très proche des animaux, qui a représenté beaucoup de ça. Bravo, là. Oh, l'œuvre suivante, c'est pareil, vous la connaissez par cœur.
On l'a vu, oui.
Je suis désolé, la photo n'est pas très bonne. Oh, ça, c'est une œuvre que vous connaissez sur le bout du doigt.
La chorale des rats. C'est pas la chorale, c'est pas une histoire de procès.
On avait vu un tableau avec des leçons de musique.
Un tableau avec des leçons de musique.
C'est une rhapsodie.
La chef d'orchestre. Et les chanteurs, hein, ouais. Qui s'égosillent d'ailleurs, hein, moins qu'on puisse dire. Et alors là, c'est pareil, quand, qui, où? Anglais, avec l'Angleterre, c'est intéressant, ouais. Tout ce que ça vous inspire. Donc l'idée de l'Angleterre vous va, mais à quelle époque?
Fin 18e.
Angleterre 18e, c'est bien ça? Un contemporain de Stubbs.
Pourquoi pas?
Stubbs, c'est 18e, hein? Ah non, vous disiez 19e tout à l'heure?
Fin
18e, début 19e. Donc Angleterre dit 18-19e, c'est ça? Ouais. Bien. Bon. Alors, un taureau.
Des vaches. Des moutons.
Ouais. Ah, côté représentation des animaux, là, pas de problème, tout est identifié.
On est dans l'Yonne.
Un charolais.
Non, ce sont
charolais. C'est pas des
charolais.
Pas trop, hein.
Bronzé.
Alors, vous me datez ça. Quand vous me faites. Vous voyez ça fait où et par qui?
Rosa Bonheur.
Ah, ben il y en aurait deux alors? Vous m'avez déjà cité un tout à l'heure, vous abonnez.
Oui, mais
voilà. C'est pas ah non, parce qu'il n'y a qu'une œuvre par femme.
Ah,
donc faut que vous choisissiez. Hein. Tout à l'heure, c'était les renards.
Alors, c'était pas le renard.
Ah, c'est plus ça. Donc là, c'est Rosa Bonheur. Donc voilà un très beau taureau de Rosa Bonheur. Donc on est en France, au 19e siècle. Ça vous va, ça? Ouais, début 20e. Ah, je ne sais pas. Bon, donc Rosa Bonheur, en tout cas fin 19e, on va dire. Ça vous va, ça, hein? Ça vous va. Très bien. Et alors ça? Ouais. Ah oui, un chien.
Qui court après les
autres. Eh oui, un chien qui vient perturber une scène avicole. Alors, au jardin des biches. Là. Ouais. Bon, là, c'est pareil. On est où? On est quand? Qu'est-ce qui a fait ça? Vous allez encore me dire. Qu'est-ce que vous allez me dire?
Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise?
On ne sait plus.
C'est là que quand il y avait les grands paysages, là.
Les grands paysages enfin, au fond.
Le tableau, l'arrière du tableau, on peut penser justement les Bruegel, là.
Ah, donc vous, oui, vous verriez ça donc en Flandre, si je vous entends bien. Hein. Et assez tôt, peut-être.
Oui.
Ouais. Flandre, ça va tout le monde? Assez tôt, début du... Pourquoi? C'est peut-être bas couille, hein. Bon, je pense que ça vous inspire moyennement.
Oui.
Une pantalon, bravo. Vous avez regardé la vie des animaux sur TF1 dans les années 60, comme moi.
C'est un dessin?
Alors, c'est plutôt effectivement. Enfin, il y a du fusain, hein, mais il y a aussi la croix. Effectivement, oui.
Bon, il est signé celui-là aussi.
Ah.
On n'arrive pas à
lire. Oui, pas très bien. De toute façon, ça ne sert à rien de regarder les signatures, souvent elles sont fausses. Et voilà. Vous mieux regardez l'œuvre, ça en a pas envie d'avant.
Ça, c'est 20e, oui.
20e?
Oui.
Il y a un côté presque cubiste.
Oui, c'est un côté
très, c'est très un peu cubiste.
Oui, un côté cubiste. Ouais. C'est beau, hein?
Oui, c'est vrai. Oui.
Alors, un artiste animalier un peu cubiste, début 20e.
Au début, on s'approche de 1930.
Un début bien, bien cuit, quoi. Hein. Alors, qui? Qui?
Est-ce que c'est vraiment en France?
Ah ben, je sais pas. Vous verriez ça où?
Plutôt germanique.
Germanique?
C'est très expressif.
J'ai eu des céramiques dans ce style-là.
Ouais. Oui.
Ah.
Bon, pas une idée d'un nom particulier. Donc France, point d'interrogation. Première moitié du 20e. Et voilà. Panthère noire.
Panthère noire.
Ok.
C'est pas mal.
Après, on ne sait pas ni vraiment où, ni vraiment qui, mais enfin, bon, c'est un bon début. Oui, j'ai un titre. Bien. J'ai trouvé vraiment qu'il y a les oiseaux.
Oui, ça donne à les oiseaux.
Quand enfin, tout ce que je vous montre, hein, c'est le, la crème de l'art animalier occidental.
Oui, mais la proportion de tableaux d'oiseaux qu'il y a, est-ce que c'est ce qui est la proportion réelle dans ce
que... Ah, alors, pour les rêves, je n'ai pas fait de statistiques. Mais les oiseaux sont quand même fréquents. Hein.
Oui, mais par exemple, on a vu peu de chevaux.
Oui, alors, disons qu'il y en a effectivement pas mal, mais c'est souvent par les mêmes artistes, vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Vous voyez de Stubbs tout à l'heure, Stubbs, c'est pas excusez-moi, mais quasi des chevaux.
Oui, parce que les oiseaux ont une plus grande variété d'apparence que les chevaux.
Oui, puis il est vrai que dans certains territoires, vraiment, l'oiseau est omniprésent, je veux dire, dans la peinture.
Oui, puis il y a des oiseaux qui ont disparu.
Oui, ou qui sont plus très nombreux, hélas. Bon, alors là, ça vous inspire quoi ?
Une œuvre décorative.
Une œuvre décorative, oui. Donc, qui a simplement pour but de montrer des jolis oiseaux avec des couleurs.
Oui.
Hein ? Toujours cette espèce de riche. Pardon ?
Les oiseaux exotiques.
Les oiseaux exotiques. Toujours une espèce de profusion du monde. Une sorte de richesse du monde qui nous est montrée par une accumulation d'oiseaux divers et variés. D'origine différente, pardon.
Et puis la végétation, c'est quand même assez exotique.
Oui.
Il y a un cactus.
Au fond, les arbres,
ça peut être
un palier. Voilà, donc une espèce de manière de mettre ensemble des animaux, peut-être aussi des plantes, hein, d'origine différente, qui montre une sorte de profusion du monde. Ça vous va, ça ?
C'est une discussion, c'est éventuellement une discussion.
Tout ce monde la cause.
Entre gens de bonne...
De bonne compagnie.
Avec des cactus au milieu.
C'est ça.
Et il y en a deux qui ne sont pas terminés.
Ah, lesquels ?
C'est du blanc ou ceux du fond et le blanc à côté.
Ah, si.
C'est de là. Bah, quand on est de près, c'est plus visible, hein. Mais de loin, je suis d'accord avec vous, on a cette impression. Mais de près, on voit que c'est...
L'ibis, il est comme ça.
Ouais. Un ibis, oui. Enfin, un genre d'ibis.
Quelle dimension ?
C'est assez grand. Hein.
Ah,
non. Vraisemblablement. Oui, oui. Ouais.
Est-ce que c'est un tondeau ?
Alors, on peut dire, parce que c'est quasiment... C'est un rond un peu ovale, disons, hein. Donc on peut dire un tondeau.
C'est quoi un tondeau ?
C'est un tableau rond, un tableau circulaire. C'est le nom qu'on donne à des tableaux circulaires, un tondeau. Alors là aussi, question rituelle, quand ? Qui ? Où ?
18
France.
Oui, c'est ce que j'avais
dit la dernière. Donc un petit italien,
là ? Allez, un petit
italien. Allez. Allez, on va tous des animaux exotiques, sortons un peu des canaux. Hein. Allez, un petit italien du 18e. Un espagnol ?
Oui.
Voilà, les noms, ça va être plus dur. Hein.
Ah, ok.
Sachant que c'est le top 25 des animaliers occidentaux. Hein. Non, pas d'idée ?
Non.
Bien, alors le suivant. Je regarde une chose, oui. Ça ressemble un peu à quoi ? Au renard de tout à l'heure.
Oui,
ok, donc c'est une étude. Une étude qui ressemble au renard de tout à l'heure. Très bien.
Donc Léonard, tout à l'heure, c'était Rosa Bonheur, 19e. Mais Fernand, c'était plus Rosa Bonheur. Alors c'était qui Léonard, Fernand?
Je ne sais
pas. Ah, on ne sait pas.
Mais moi, je pencherais pour Rosa Bonheur, pour le chien.
Alors là, ce serait Rosa Bonheur.
Les vaches, je sais qu'il y a un peintre qui a fait en début de carrière des tas de vaches qui sont dans un musée dans le Nord, je crois. Tout a été donné, tout a été légué. Je ne sais plus, est-ce que c'est Boudin qui a...
Ah, Boudin.
Qui n'a pas fait des vaches, mais il y a eu toute une période. Un peintre auquel on ne s'attend pas, enfin, je veux dire, voilà. Parce
ouais.
On s'attend.
Donc, finalement, le taureau tout à l'heure, c'est plutôt lui qui serait pas Rosa Bonheur,
ça,
mais.
Ça, c'est Rosa Bonheur.
Ça, c'est Rosa Bonheur.
C'est bien possible, oui, parce que ça ressemble à son chien.
Oui, c'est ça. Elle a plein de chiens, elle a fait
ça. C'est signé. Donc, vous avez raison, c'est Rosa Bonheur. Donc, votre taureau tout à l'heure, pas Rosa Bonheur. Hein. Et votre renard, pas davantage. Aïe, 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 aïe. Ouais. Donc là, c'est Rosa Bonheur. Alors, on a tellement parlé de cette peintresse animalière. Hein. Effectivement, là, on reconnaît bien sa touche dans ses esquisses. Hein. C'est assez typique d'elle, ça.
Qu'est-ce que c'est, Rosa Peintresse?
Ouais, c'est bien.
Ils sont vivants.
Ah ouais, c'est très bien. Vous venez des chevaux? Il suffit de demander. Ah ben voilà, encore un autre ouvert. De Stubbs, peut-être.
Ah non. Oh non, les Stubbs, ils sont vraiment anatomiquement parfaits. Lui, il n'est pas du tout.
Ouais, il a une drôle de tête.
Drôle de tête.
C'est de l'espagnol, ça.
Ah, c'est de l'espagnol, oui.
Oui.
Ah.
Oui, il a un côté Hidalgo. Pas hein. Enfin, mais un côté Hidalgo, le noble espagnol. Je ne fais pas de politique.
C'est pas ça. Les oreilles sont
différentes. Oui, il a des oreilles dressées.
Il est joufflant, mais il est marrant.
Bon, il est pomponné, hein. Ah, on sent qu'on l'a. Avant de lui tirer le portrait.
Il a mis du gel.
Pardon.
Il a mis du gel pour que ça bouge.
C'est ça.
Un portrait flatteur.
Un portrait flatteur.
Il a un côté un petit peu cheval à ras.
Oui. Ouais.
Ça fait un tableau anglais quand même.
Donc un tableau anglais. Mais pas stop.
Bon,
ah bah, à moins que l'autre soit pas. On a déjà fait le coup avec Rosa Bonheur. Hein. D'en voir à trois reprises, alors que c'était. Alors là, peut-être que Stubbs tout à l'heure, c'était pas Stubbs. Hein. Bon. Eh ben. Comme quoi c'était une séance utile pour réviser nos artistes animés. Hein.
Après, être espagnol, ça.
Ah, décidément, l'Espagne entre en force.
Non,
hein.
Clairement.
Pardon.
Donc, la pays, ça fait des flammes.
On n'est plus en Espagne, hein?
Non,
en Flandre.
C'est celui d'avant que je voyais en Espagne. C'est
ouais.
Là.
Ok.
C'est du rouge de l'Est. Donc, c'est plutôt en Allemagne.
Allemagne?
Le Jura.
Bon. Et à quelle période, à quelle époque?
19e.
Comme le taureau tout à l'heure, en fait.
Le bonhomme.
La du monsieur,
là, le chapeau. Ben, du monsieur, ça fait quelle époque, ça? Pardon?
C'est vague.
C'est vague. Oui, c'est vrai qu'un chapeau comme ça et une biote comme il a, c'est un peu. Hein, un peu universel.
Ça fait 3-4 siècles au moins.
Ça fait un peu des familles. Il y a le bélier avec la brebis et
ouais.
L'autre côté, il y a un taureau et une vache.
Ouais. Oui, il y a monsieur, madame et le bébé. Quoi.
Mais il n'y a pas le veau.
Non, pas encore.
Il n'y a pas encore.
À venir.
Il y a des oiseaux dans les
frais. Il y a des oiseaux dans les frais.
Et puis il y a d'autres
taureaux. Il
y a peut-être encore
un
taureau.
Voilà, le taureau, il est encore un peu jeune.
C'est un
taurillon. Un petit taureau.
C'est le fils de madame.
Voilà. C'est le grand-fils.
Eh bien, en tout cas, vous aurez des boisés. Hein. Et.
L'arbre l'est assez, d'ailleurs.
L'arbre
est assez déboisé.
Oui.
Il y a un arbre du sud, je ne sais pas. Il y a un chêne et un
chêne. Il s'appelle Pollux ou un truc comme ça.
Oui. Donc ce serait lui.
Possible.
Comment? Un pin qui s'appelle Pollux. Ah. Et on aurait une œuvre de ce Pollux. Pollux, c'est un. Donc un Allemand, ça viendrait confirmer ce que vous avanciez.
Tiens.
Ah ouais. Des coquillages, bravo. C'est des animaux aussi. Hein.
Oui,
oui,
oui, des gros aigles. Mmh. Il y a un petit insecte genre guêpe, pas vraiment, en haut à droite.
Ouais. 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 Un papillon.
Il y a un lézard aussi.
Oui, il y a un lézard sur un coquillage.
Sur une porcelaine là-bas.
Ah oui. Ah oui.
À côté du pointu, juste entre le papillon et le.
Très naturaliste.
Ah ouais, on a des détails.
Alors là, encore une fois, je suis désolé, j'ai toujours eu une question. Je suis un peu. C'est répété. Et donc, c'est où, c'est quand, c'est quoi? C'est qui? Ça ne nous dit pas quand ça a été fait et par qui. Enfin,
c'est pas une peintre d'âme qui a fait des belles natures mortes.
Une peintresse?
Oui. Non.
Eh bien, on verra. Oui, les chevaux sous l'orage.
Anglais.
Bah, les chevaux, c'est l'Angleterre. Hein.
Ouais.
Ah, pas que.
Il y a la foudre.
Pardon?
Il y a de la foudre.
Il y a de la foudre. Vous avez les chevaux effrayés par l'orage, manifestement. Ouais. Est-ce que ça ce genre de composition vous donne un indice sur la période où ça a été fait?
C'est un peu irréaliste, hein, la position des chevaux.
Irréaliste?
Est-ce que ça serait romantique?
Oui,
romantique?
Oui, plus romantique.
Donc on serait dans la première moitié du 19e. Allons-y. Première moitié du 19e. Et on est en Angleterre, comme vous disiez.
Non, c'est peut-être en France aussi.
Non, peut-être en France. Eh bien, écoutez.
Il y a beaucoup de vaches là-bas dans la dernière.
Il y a de la vache, ouais.
Qui elles sont très tranquilles.
Ah ben oui. Souvent les vaches sont tranquilles quand elles sont sous.
Elles
sont
belles souris.
Allez, on va voir un dernier, avant la correction des copies. Un tableau de chasse. Chardin.
De la signature.
Oui, il y avait la signature et la date.
Ah bon,
oui. Oui. Si vous n'avez pas lu alors.
18e.
Ça, c'est pas trop dur.
Un
petit jardin.
Il est trop raide pour du jardin.
Un grand jardin.
Là, c'est composé. Hein, c'est pas
la... Très composé. Hein.
Oui, donc c'est l'autre. C'est...
Mais surtout, regardez la façon dont c'est peint. C'est ça qu'il vous dit.
Oui, oui, oui.
Ce sera dit, vous connaissez par cœur. Hein. On a parlé 50 fois déjà. On a vu plein de tableaux de lui. Si vous regardez la peinture, vous trouvez. Il faut vraiment regarder la peinture, avoir des tas de choses dans l'œil. Parce que ça, vous l'avez vu déjà 50 fois. Bon, on lève les copies. Allez. Alors, on commence. Je vous les ai mis dans l'ordre chronologique qui va nous permettre un peu de remettre nos idées au clair. Enfin, j'espère. Parce qu'il y a un petit peu de travail. Alors, ça, ce tableau, vous l'aviez bien identifié. Vous aviez bien vu que c'était le Volto. Vous aviez cité Jean Bruegel. C'était une bonne idée. Alors, ça n'est pas lui. Bruegel, il a fait pas mal de choses, il a fait pas mal d'animaux, mais il y a vraiment un peintre qui a été très spécialisé dans la peinture animalière à l'époque de Bruegel. Quelquefois, d'ailleurs, il y a même eu, si je me souviens bien, des collaborations entre les deux. C'est Roland de Savry. Roland de Savry, qui est un artiste effectivement flamand, hein, même s'il est né à Utrecht, il est mort à Utrecht, et qui a réalisé de très très nombreuses peintures de Jean. On est donc assez tôt, hein, au XVIIe siècle, hein, et on voit qu'il y a encore un côté presque post-médiéval, presque renaissant, hein, la façon de peindre. Voilà, il a fait beaucoup, beaucoup de tableaux avec des provisions d'animaux. Très souvent, une chose amusante dans les œuvres de Savry, alors ça n'est pas le cas là, j'ai cru que ça l'était, mais non, il représente un dodo, vous savez ce que c'est que le dodo?
Ah, oui.
L'animal de Louis Maurice qui a disparu aujourd'hui. Savry avait été très étonné par cet animal, et très souvent dans ses tableaux, on voit un dodo. Ce n'est pas le cas ici. Donc Roland de Savry, ça c'est dans ces territoires nordiques, dont vous savez, dont on va voir, hein, qui sont l'un des grands, grands lieux de la peinture animalière en Occident, hein, un des points essentiels de la peinture animalière occidentale, c'est en gros la Flandre et la Hollande. Hein. Ça, c'est clair, ils sont vraiment le lieu un peu matriciel de ça en Occident. Hein. Pas tellement l'Italie, pas tellement la France, vraiment le nord de l'Europe, c'est le lieu de vraiment une espèce de profusion de la peinture animalière. Et c'est d'ailleurs toujours, hein, dans ce lieu, il y avait un peintre qui s'appelle Van der Haast, qui lui s'est vraiment spécialisé dans les présentations de coquillages. Hein. Donc ça, c'est un tableau qui est encore assez tôt. Je trouve qu'on ressent d'ailleurs ce côté un peu archaïsant encore, hein, entre guillemets, hein, dans un tableau comme celui-là, qui a effectivement pour but de montrer l'espèce de qualité de richesse de matière, hein, de ces extraordinaires coquillages. Hein.
Mais ce tableau est assez troublant, parce que effectivement, il est du 17e, mais en même temps, si on traduit la toile par de la toile cirée, par exemple, on aurait un truc moderne.
Ah, mais oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Vous savez, les gens de l'époque Art déco, par exemple, ont été, dans les années 1920-30, ont été très intéressés par ce genre de choses. Effectivement, le côté assez déco, finalement, hein, de ce genre d'œuvre, pourtant du début du 17e, a effectivement beaucoup, beaucoup intéressé les artistes art déco, comme par hasard. C'est vrai. Alors, un des artistes sur lequel vous êtes un peu cassé les dents, c'est Franz Snyders. Franz Snyders, c'est vraiment un des grands artistes travaillant les animaux. Hein. On est là, donc, dans ce nord, dans cette Flandre, tellement productive dans ce domaine. Hein. Et Snyder, c'est absolument à nous retenir. Hein. Snyder, c'est vraiment l'un des grands peintres animaliers européens de toute l'histoire de la peinture. Hein. Il a fait des quantités de tableaux comme ça. Alors, quelquefois, d'ailleurs, il y a aussi des personnages qui sont dans les scènes, qui, quelquefois, ont été faits par d'autres artistes. Les artistes étaient tellement quelquefois spécialisés que Snyder faisait les animaux et par exemple Rubens ou Van Dyck pouvaient faire des personnages. Hein. Snyder pouvait en faire lui-même aussi, mais souvent il y a une collaboration sur une même œuvre de différents artistes qui avaient des spécialités différentes.
Là, c'est Snyders 100%. Laurent Snyders, nous en retenir dans la peinture.
J'espère qu'il peignait vite, hein, parce que l'odeur.
Ah ben, vous savez que c'est un des problèmes de Chardin, pareil, de Chardin tout à l'heure, c'est un problème parce que Chardin peignait tellement lentement que quand il peignait un lièvre mort, etc., le lièvre pourrissait avant qu'il ne termine le tableau. Donc c'était un problème. Snyder, pour Snyder, on ne parle pas de choses équivalentes, mais peut-être. Est-ce le cas aussi? Et puis là, on resserre ça, et vous avez raison, c'est un certain Paulus. Mais Paulus Potter. Hein. Ce tableau, vous le connaissez, ce tableau, Moritz Seuss de La Haye, c'est un tableau extraordinaire, un tableau énorme, presque grandeur nature. Hein. C'est un des musts de Moritz Seuss à La Haye. Hein. Bon, avec le Chardonneret, que vous connaissez sans doute, et puis La Femme à la Perle, évidemment. Voilà, ça, c'est vraiment. Donc, le Chardonneret, c'est Karel Fabritius, hein, je vous l'ai déjà montré, enfin, à part c'était une Vermeer. Hein. Le tableau de Paulus Potter, c'est un des musts de Moritz Seuss de La Haye. Hein. Admirable musée, où il n'y a que des chefs-d'œuvre.
Il est mort jeune?
Il est mort très jeune. Très très jeune. Oui. Très très jeune. Il est mort, il avait une vingtaine d'années. Il était très très jeune. Donc son œuvre est très très courte. Hein. Et ça, c'est un très grand tableau, hein, à peu près grandeur nature, encore une fois. Un tableau très très impressionnant. Assez tôt, on est dans la première ligne du 17e. Et voyez comment toutes ces œuvres-là, Snyders, Potter, sont des gens qui vont beaucoup marquer la peinture, notamment en France, au 17e et 18e. C'est vraiment, ces artistes-là sont matriciels, si vous voulez. S'il y a une peinture animalière en Occident, c'est largement sur la lancée de tous ces artistes du Nord. Hein. La Flandre, la Hollande, ont un rôle capital dans, si vous voulez, la création de ce qu'on pourrait appeler une école animalière dans la peinture en Europe. Hein. Et donc Snyder, Potter sont vraiment des noms à retenir, de même que Paul de Vos, hein, qui a fait ces deux genres, Musée des Beaux-Arts de la Régie de Besançon. Hein. Ça, c'est une des cartes postales les plus vendues du Musée de Besançon. Hein. Ce tableau-là, c'est une moche du Musée de Besançon. Hein. Un tableau extraordinaire. Hein. Paul de Vos a fait beaucoup, beaucoup comme ça. Alors, vous avez raison, ces époques-là existent dans l'or, dans la baie de la Somme, il y a des phoques comme ça. Ils sont d'ailleurs protégés. Hein. Donc ça, c'est des vrais phoques qui existent bel et bien sur les côtes nord. Donc, en fait, Paul de Vos n'a fait que représenter des animaux que l'on pouvait voir. Alors, c'est un peu bizarre dans ce clocher et les phoques, mais ça existe. Donc, très, très beau. Alors, vous voyez qu'il y a quand même... Paul de Vos a ajouté des coquillages qui, eux, ne sont pas forcément des coquillages locaux. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il a fait son petit Van der Haast devant. Rappelez Van der Haast tout à l'heure. Hein. Il a mis sur le devant, pour montrer quand même qu'il est un peintre qui a du brio, hein. Il a mis là quelques coquillages qui viennent des tropiques et autres, hein, avec deux phoques tout à fait de la mer du Nord, pour peut-être un peu nous perdre, je dirais, et pour montrer sa capacité à montrer aussi des paysages, hein. Des coquillages. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une espèce d'escargot qui sort, tout ça est un peu bizarre. Autre artiste, alors là, dont nous n'avions rien vu jusque-là, qui est toujours dans ces territoires, hein, on est encore en Flandre, et qui est un grand spécialiste, notamment des oiseaux, c'est Jan Fitt. Hein. Fitt a représenté beaucoup d'oiseaux, et là, c'est un petit concert, c'est une thématique très fréquente. Hein. Le concert d'oiseaux, j'aurais pu vous en passer plein d'autres, c'est une thématique, les oiseaux, c'est l'air, effectivement, c'est aussi la musique, vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez reconnu la partition qui est à gauche. Donc l'idée de représenter des oiseaux en train de participer à un concert, c'est une chose fréquente. Vous l'aviez bien vu tout à l'heure, tout comme vous aviez bien vu, en plus il est bellement signé ici, hein, cette œuvre de Jan van Kessel, qui est un artiste qui a fait beaucoup de petites œuvres. Ça c'est au musée de Grès, hein, pas bien loin. Hein. Alors, c'est un tableau à peinture à l'huile, hein, c'est petit, mais c'est un tableau à l'huile sur toile. Mais qu'est-ce, alors c'est pas grand, hein, mais voilà, mais c'est une espèce de miniature, hein, c'est extrêmement bien réalisé. Kessel a fait plein d'œuvres comme ça, avec des poissons, avec des oiseaux, etc. Mais le leitmotiv chez Kessel, c'est ce côté histoire naturelle. Il présente vraiment des tas de choses comme ça, côte à côte. C'est sa grande affaire. Il y a des pages comme ça où on voit des tas d'insectes ou des poissons, par exemple. Hein. L'affaire de Jan Kessel, c'est ça. C'est d'épingler des tas d'espèces plus ou moins bien observées, hein, plus ou moins inventées. Bon. Mais c'est son histoire. Et quelquefois, d'essayer de montrer un certain mode de vie de ces animaux-là. Hein.
c'est vraiment la manière qu'il a de faire ce genre de choses. Alors là, on s'était un peu trompé. On est chez un artiste d'origine également flamande, c'est Peter Boel. Peter Boel est un artiste très intéressant, qui ici, effectivement, fait une étude avec des renards, ou un renard. Peter Boel est un artiste originaire d'Anvers, mais il est très vite allé, et nous sommes dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, hein, en France, où il est un collaborateur notamment de Lebrun. Hein. Bon, Lebrun faisait le grand peintre, etc. Et Lebrun faisait des tableaux qui étaient absolument énormes, et Boel travaillait comme... il a été largement collaborateur de Lebrun. Quand il y avait des animaux à faire, c'était Boel, si vous voulez. Et Boel avait d'autant plus de facilité de le faire qu'à Versailles, il y avait la ménagerie. Et que Boel allait à la ménagerie pour peindre et dessiner les animaux, si vous voulez. Et on a au Louvre, au musée de Sèvres, etc., des quantités d'études de Peter Boel qui présentent des animaux que Boel a pris sur le vif. Il allait à la ménagerie, vous troussez ça sur une toile, et il vaut bien galère, si vous voulez. Et en plus, ces œuvres de Boel pouvaient être utilisées, par exemple, pour faire des cartons de tapisserie. Voyez. Alors, par le brun ou par d'autres, mais voilà. Donc, si vous voulez, Boel, c'est vraiment l'animaliste de service, comme par hasard, c'est un nordique. Parce que, décidément, en France au XVIIe, il n'y a rien de mieux que de faire un nordique pour faire des animaux, puisque c'est leur spécialité. Il le montre depuis le début du siècle, vous l'avez vu. Hein. Donc, on ne va pas s'embêter en France au XVIIe à demander à des Français de faire des animaux, alors qu'il y a à côté des Flamands, dont c'est le métier depuis un siècle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Boel, c'est vraiment le peintre émigré, si j'ose dire, des animaux qui collabore avec les peintres français du temps. Et puis, il y a un autre peintre dont on n'avait pas parlé du tout, qui s'appelle Milker Dondercotter. Milker Dondercotter, c'est spécialiste de la poule, hein, et du canard. Hein. Il a représenté. Alors, c'est un peu comme Fit. Fit, c'est des oiseaux, mais plutôt des oiseaux assez nobles. Enfin, j'arrive contre les poules. Hein. Voilà. Undercutter, lui, il va montrer des scènes de poulailler à n'en plus finir. Hein, c'est vraiment sa spécialité. Vous voyez que c'est nordique. Hein. Là, on a un artiste hollandais. Ils vont vraiment labourer le champ des animaux durant tout le siècle. Hein. Lui, il meurt à l'extrême fin du XVIIe. Hein. Vous voyez qu'il y a les spécialistes des coquillages, il y a ceux qui font plutôt des oiseaux, ceux qui s'intéressent aux mammifères, et tout ça de manière à chaque fois différente. On sent bien, je vous disais tout à l'heure, hein, que ces territoires du nord de l'Europe sont des lieux essentiels dans l'histoire de la représentation animale dans toute la peinture européenne. C'est ce qui fait que, et là nous arrivons au début du XVIIIe siècle, sont possibles plus tard en France des artistes comme Desportes. Ça, c'est Desportes. Vous voyez, Desportes, on l'a déjà vu dans les séances précédentes. Hein. Ça, c'est le Desportes. Mais quand vous la voyez après ce qu'on vient de voir, vous comprenez pourquoi Desportes existe. Desportes, c'est l'héritier de tout ce qu'on vient de voir. C'est fin XVIIe et surtout début du XVIIIe siècle, un peintre qui a, si j'ose dire, digéré la peinture du Nord, qui a regardé Dondercotter, qui sait ce que c'est que Smiders, qui comprend ce que c'est qu'Jan Fitt, et qui digère tout ça et réalise ça. Desportes, si vous voulez, c'est le fruit en France au début du XVIIIe siècle de toute cette peinture animalière nordique, tout comme un autre peintre que vous n'avez pas reconnu, qui est Oudry. Ça, c'est Oudry. Oudry n'a pas fait que des animaux vivants. Hein. Par exemple, je vous ai passé quelquefois des Oudry, on a vu plein d'œuvres. Hein, il a fait également des natures mortes d'animaux, et c'est le cas ici. Alors, il est signé là, effectivement, hein, c'est pas très visible, 1753. C'est donc, voilà, Oudry a fait un centre de nature morte très trompe-l'œil, d'ailleurs. Hein. On voit que, notamment, un centre dont le bois est présenté à l'arrière. Hein. Ça, c'est très, très étonnant. Voilà, Oudry a fait beaucoup, beaucoup de choses de ce genre-là. C'est pas les œuvres les plus connues, mais c'est celles qui sont parmi les plus étonnantes sur le plan de la réalisation. Et puis, il y a Bachelier. Bachelier, on en avait vu une œuvre qui était un gros chat angora, vous vous rappelez? Hein? Vous vous rappelez pas? Un gros chat, super, etc. Hein? Voilà. Bachelier, il avait travaillé pour le roi, notamment pour le château de Choisy. Ça, c'est un support qui vient du château de Choisy, pour lequel Bachelier avait réalisé les quatre parties du monde représentées par des oiseaux. Ça, c'est des oiseaux d'Amérique. Vous avez... trois autres parties du monde, l'Australie, enfin l'Océanie n'existant pas, hein, qui étaient représentées à partir des oiseaux.
Donc, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on représente des oiseaux, mais on représente autre chose. On a vu tout à l'heure que c'était aussi pour parler du chant des oiseaux. Dans d'autres cas, ça peut être pour parler géographie, que sais-je encore. Vous voyez que souvent, effectivement, on mélange les messages. Là, c'est une histoire, j'allais dire, naturelle, mais aussi une histoire de géographie. Alors, vous avez reconnu Stubbs. Ça vous l'a reconnu. Donc, ce tableau extraordinaire, qui est un tableau grandeur nature. C'est un tableau absolument énorme. Ça fait 4 mètres de haut. Un tableau vraiment impressionnant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu à la Chambre de Londres, mais ah, c'est vraiment un grand truc. Hein. Et Stubbs, effectivement, c'est le peintre anglais du cheval, on l'a vu. Et alors, il connaissait bien les choses que Stubbs avait regardé les choses de très très près. Il a même participé à des ateliers de dissection. Enfin, pour Stubbs, le cheval n'a pas de secret. Et là, vous avez là une espèce de photographie d'un cheval précis. Hein. Il y a une culture du cheval, vous savez, en Angleterre, qui est absolument incomparable. On le voit bien ici, très grand tableau, en train de cheval carré il y a quelques années. Un tableau impressionnant. Et c'est finalement quelque chose de très, très différent que l'on a, mais plus tard, hein, en France, au début du XIXe siècle, avec Karl Vernet. Hein. Un tableau, vous l'avez bien vu, absolument romantique, en faisant des chevaux effrayés par l'orage. Hein. En fait, Karl Vernet, certes, s'intéresse aux chevaux, mais comme très souvent dans ses œuvres, il s'intéresse à les mettre en scène. Hein. Stubbs, il monte des chevaux pour montrer les chevaux, pour faire vite. Hein. Vernet est quelqu'un qui montre énormément de chevaux, mais dans des mises en scène, là, ils sont effrayés par l'orage, il y a du vent, que sais-je encore. Souvent, il les montrera attelés à des carrioles, etc. Donc, si vous voulez, Vernet, chez Vernet, qui est le fils de José Vernet, celui qui a fait les ports de France, hein, qui est le père d'Horace Vernet, que vous connaissez aussi, dans l'exposition récemment à Versailles. Voilà. Donc, Karl Vernet, c'est quelqu'un qui utilise le cheval de manière impeccable, hein, mais qui le fait jouer des scènes. Et vous avez tous reconnu, alors là, bravo, hein, Landseer, hein, le fameux peintre anglais du 19e, un peintre truculent, merveilleux, avec toujours des chiens dans toutes les attitudes. Vous l'avez bien reconnu là. Hein. On dirait Mrs. Pickwick, là, au premier plan. Par contre, là, mais c'était intéressant ce que vous avez dit, vous parliez de la croix, alors que c'est Barry. Barry n'est pas que sculpteur, il est également peintre. Hein. Alors, on connaît surtout ses sculptures ultra célèbres, on en a vu et vous en connaissez. Mais il est aussi peintre, et un peintre effectivement très proche de la croix. On peut vraiment les confondre. Et en tout cas, vous avez bien vu à quelle époque on était. Hein. Au début du 19e, c'est une œuvre romantique, pour toutes les raisons que vous avez dit. Barry est un excellent sculpteur, évidemment, mais aussi un très grand peintre, on l'a vu. Quant à notre taureau, c'est Brass Cassa. Ah, attendez, Brass Cassa, il faut le connaître, hein. Parce que ça, c'est le grand peintre de la vache en France au 19e. Vous en avez un chef-d'œuvre au musée d'Autun, deux pas d'ici. Hein. Parce que ça, c'est un peintre capital. Vous avez une salle entière au musée de Nantes. C'est peut-être celle à laquelle vous avez allusion tout à l'heure. Hein. Le musée des Beaux-Arts de Nantes a une salle entière de Brass Cassa. Hein. Brass Cassa, c'est, je crois que ça se voit là, c'est l'héritier de Paulus Potter. Vous vous rappelez de Paulus Potter tout à l'heure, hein, le grand tableau du Mauritius. Eh bien, Brass Cassa, c'est quelqu'un qui reprend, qui s'approprie le vocabulaire de Paulus Potter pour faire ce genre de choses. On a donc là un écho des Flamands deux siècles après, pour faire vite. Hein. Voilà. Et Brass Cassa est un artiste tout à fait agent, qui évidemment montre, un peu comme Paulus Potter tout à l'heure, à travers ça, une sorte de mer. Enfin voilà, ce taureau est évidemment une sorte d'animal qui évoque la prolixité de la nature, si vous voulez. Vous avez là une manière vraiment généreuse, hein, on imagine bien, pour montrer la nature. Et puis il y a Alfred de Dreux. Alfred de Dreux, qui est un artiste français, mais complètement anglais. D'ailleurs, vous avez dit, ouais, oh, ben ça doit être anglais. Et c'est vrai, Alfred de Dreux est très british, si vous voulez. Hein.
Il a beaucoup de gravures.
Absolument, beaucoup de gravures. Comme Cavernet, d'ailleurs. Oui, absolument. Et donc, vous avez un étalon arabe, vous l'aviez d'ailleurs vu tout à l'heure. Voilà. Donc, Alfred de Dreux, c'est un peu le Stubbs français. Hein. C'est un peu l'équivalent. Lui, ça intéresse beaucoup plus, même s'il y a des manières. Ce qui est bien, il s'intéresse beaucoup plus au cheval réel. C'est pas Karl Vernet. Karl Vernet, il les met en scène. Là, il y a chez De Dreux, mais ce qu'il faut, il met en scène, le côté vraiment Stubbs, même s'il est moins dans la précision anatomique que peut l'être Stubbs. Et puis là, c'est avec Barry,
le deuxième grand sculpteur français animalier du 19e, qui est Maine, hein, Pierre-Jules Maine. Maine, c'est le nom qu'il faut connaître avec Barry. Il y a deux grands sculpteurs animaliers français au 19e, Barry et Maine. Et là, vous voyez l'œuvre, non pas en bronze, mais en cire. D'ailleurs, pour faire du bronze, il faut passer par la cire. Ça, c'est de la cire. Vous auriez pu le deviner, d'ailleurs, parce que quand vous voyez cette jambe un peu cassée, vous voyez qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose, mais c'était de la cire.
Il doit y avoir l'armature encore.
C'est ça, on voit encore l'armature. Donc, c'est une œuvre en cire, une cire rouge assez dure. Donc, c'est remarquable comme travail. Voilà, Maine, c'est le deuxième. On connaît tous Barry, on ne connaît pas Maine, mais on adore. C'est vraiment le deuxième grand. Grand représentant d'animaux à cette période.
C'est une difficulté pour couler ça.
Ah oui, alors c'est. Je préfère pas savoir comment ils ont pu faire. C'est fou. Hein.
S'il était moulé ?
Oui, mais bah, je sais pas. À vrai dire, j'ai pas. C'est possible.
Une difficulté.
Ah oui, là vraiment, il faut y arriver. Hein. Et puis. Au musée de Noir Jean Chersonnet, il est exposé en permanence. C'est une séance cruelle que cette dernière séance. Qui vous montre qu'il faut que vous alliez refaire tous les musées de la région. À Besançon, pour Paul de Vos, à Chalon, à deux pas d'ici. Alors, ça, c'est le conseil tenu par les rats. Vous connaissez l'histoire. Hein. L'histoire que j'évoquais sous d'autres chefs avec moi, c'est qu'un jour, les rats se réunissent parce qu'ils en ont marre d'être tous bouffés par un chat. Alors, il y en a un qui dit, écoutez, c'est simple, pour qu'on sache quand le chat arrive, on va lui mettre un grelot autour du cou. Alors, tout le monde dit, ah oui, c'est une superbe idée, vraiment, tout le monde est complètement d'accord. Mais il y a un des rats qui dit, moi je trouve que c'est une très très belle idée, mais qui est-ce qui veut s'y mettre? Et un les rats dit, non, pas moi. Donc, finalement, ils ne le font pas. Donc, voilà. Et vous voyez que le rat, le chef rat, il tient un grelot. C'est le grelot qu'on veut mettre au chat, mais personne ne veut le faire. Donc, il y a une très belle œuvre de Philippe Blanc, qui est un artiste très intéressant. Hein. Il n'a pas beaucoup de poules, lui aussi, le couturier, mais également des tas de petites fables comme ça. C'est assez passionnant. Et même quand il peint des poules, le couturier, c'est toujours mis en scène. C'est un peu, si vous voulez, le Carl Vernet de la poule. C'est-à-dire qu'il peint des poules, des rats, hein, mais mis en scène. Hein, quand il y a besoin des poulaillers, parce qu'il y a des tas de pins qui ont fait des poulaillers, hein, que je vois maintenant, c'est un peu. Voilà, on a des poules, des coqs, bon, c'est bien. Voilà. L'intérêt de couturier, c'est qu'il. Je dis ça, c'est un chalonnais, hein, on va le défendre. L'intérêt de couturier, c'est qu'il met ses poules en scène, avec des coqs, il se passe des choses entre les animaux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas des poules qui. Voilà, picorent. Hein. Il se passe des choses, il y a des histoires dans les tableaux de couturier. Ça, c'est intéressant. Pas simplement des poulaillers représentés. Il y a des histoires qui se passent. On le voit là, dans ce tableau. Bon, là, Rosa Bonheur, on en a suffisamment parlé pour ne pas en dire davantage. Et puis là, on a Bugatti, qui est de la famille des bagnoles. Rembrandt Bugatti. Rembrandt Bugatti, c'est avec. Alors, il est italien. Hein. Il y a quand même l'italien. Hein. Mais il a beaucoup travaillé en France. Vous avez une collection exceptionnelle Rembrandt Bugatti au musée d'Orsay à Paris. Hein. Rembrandt Bugatti, c'est, car il a beaucoup travaillé en France, hein, avec Barry et Maine, le troisième fleuron, même s'il est d'origine italienne, de la sculpture animalière au XIXe siècle. Hein. Alors ça, en fait, c'est une œuvre en plâtre, parce que c'est un plâtre original, c'est pour ça qu'il y a des cassures. Parce que les plâtres originaux, souvent, ça se casse, on les moule, alors voilà. En plus, c'est fragile, et puis c'est mal vu. Parce que les plats, ouais, le plat, on préfère le marbre. Hein, ça, c'est beau. Hein. Mais en fait, du plâtre, ça n'excite personne. Et on adore. Parce que ça, c'est l'œuvre originale sur laquelle l'artiste a travaillé. Après tout, les tirages en bronze sont des tirages qui sont des tirages. Voilà. Voilà. Hein. Alors que là, c'est l'œuvre sur laquelle il a travaillé lui-même. Ça, c'est l'œuvre originale. Si vous alors, elle est un peu abîmée, etc. Mais c'est. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire avec Bugatti, si vous voulez, c'est qu'il a. Mais vous l'aviez bien senti, hein, il a résumé ces animaux, vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas dans l'anatomie précise de l'animal. Il suggère, d'ailleurs, vous avez bien dit que là, c'est bizarre, cette trompe trop grande, ce dos trop court, etc. Bugatti, il va plus loin que la représentation anatomique, vous voyez. Il se fait suggérer, là, l'animal, vous voyez, vu le nom, le mot, il y arrivera. Hein.
C'est ça qui m'intéresse, pas seulement un éléphant. C'est l'éléphant qui est en train voilà, d'essayer. Donc c'est ça qui est montré. Vous aviez autrement bien reconnu Franz Marc, un magnifique, magnifique peintre, et l'a tué. Oh pardon, c'est pas. J'ai pas changé la date. Il a été tué en 1916.
Il serait mort.
Dans la guerre. Il serait mort avant sa naissance. J'ai pas changé la date. Pardon, 1916. Hein. Et là, c'est Jouve. Jouve, ça vous dit rien? Jouve, c'est un peintre des années 20, en gros. Hein. Un artiste qui a travaillé notamment, vous savez, pour faire des grands décors. Il a travaillé Dunant pour faire des panneaux en lac. Hein. C'est quelqu'un qui a allé, vous savez, à l'époque, on faisait des paquebots, etc. Hein. Il y avait souvent des décors, tout le monde très exotique. Voilà, et c'est lui qui a fait cette admirable panthère noire que vous voyez là. Et puis, bien sûr, pour terminer, hein, il y a notre merveilleux Pompon, mais on le connaît tous, parce qu'on tourne tous à son lieu autour du taureau qui est au milieu du rond-point. Donc on connaît Pompon par cœur. Ça, c'est une œuvre d'ailleurs du musée des Beaux-Arts de Dijon. Hein. Pompon qui est vraiment un très, très intéressant artiste animalier. Hein. Il n'est pas simplement notre animalier bourguignon qu'on aime bien parce qu'il est né à son lieu. C'est vraiment un des artistes phares de l'art animalier. Ce que je vous ai montré là ce soir, c'est 25 artistes. Il y en aurait d'autres. Hein. On a parlé tout à l'heure des chevaux de Degas, par exemple. Les Degas n'est pas qu'un animalier. Hein. Les artistes que je vous ai montrés là, qui sont un peu la crème de l'art animalier européen entre le XVIIe et le début du XXe siècle, c'est vraiment la crème hein, de ce genre de peinture et de sculpture dans l'Europe sur les quatre siècles que l'on a évoqués. Alors, il y en aurait d'autres, hein, mais ceux-là sont des animaliers majoritaire, pourrait-on dire, ce qui n'a pas empêché d'autres artistes de représenter des animaux. Hein. On a parlé de Chardin aussi, par exemple. Hein. Mais Chardin n'a pas fait que ça. Tous ces artistes-là sont avant tout branchés, si je veux dire, animaux. Et ce petit paradis-là des animaliers, c'est vraiment, je crois, celui que l'on peut garder en tête pour clore cette séance. Et cette séance.
On n'a pas d'attendu.
Vous avez une moyenne. Bon, ben, c'est fait pour ça, en même temps. Hein.
Si on ne voyait dans les ateliers que ce qu'on connaît... Bravo, ben, écoutez, on se voit peut-être l'année prochaine, ou la saison prochaine. Ou avant. Il y avait un monsieur qui était là, qui était là aujourd'hui, qui m'avait...